3. De la même à la même, juillet, Guérande. Ah, chère maman, au bout de 3 mois à connaître la jalousie. Voilà mon cœur bien complet, j'y sens une haine profonde et un profond amour. Je suis plus que trahie, je ne suis pas aimée. Suis-je heureuse d'avoir une mère, un cœur où je puisse crier à mon aise? Nous autres femmes, qui sommes encore un peu jeunes filles, il suffit qu'on nous dise « Voici une clé tachée de sang, au milieu de toutes celles de votre palais. Entrez partout, jouissez de tout, mais gardez-vous d'aller aux touches, pour que nous entrions là, les pieds chauds, les yeux allumés de la curiosité d'Ève. Quelle irritation Mademoiselle des Touches avait mise dans mon amour. Mais aussi, pourquoi m'interdire les touches? Qu'est-ce qu'un bonheur comme le mien qui dépendrait d'une promenade, d'un séjour dans un bouge de Bretagne? Et qu'ai-je à craindre? Enfin, joignez aux raisons de Madame Barbe Bleue le désir qui mord toutes les femmes de savoir si leur pouvoir est précaire ou solide, et vous comprendrez comment un jour j'ai demandé d'un petit air indifférent « Qu'est-ce que les touches ?»« Les touches sont à vous, m'a dit ma divine belle-mère. » « Si Calliste n'avait jamais mis le pied aux touches, s'écria ma tante Zéphirine en hochant la tête. « Mais il ne serait pas mon mari, dis-je à ma tante. « Vous savez donc ce qui s'y est passé ?» m'a répliqué finement ma belle-mère. « C'est un lieu de perdition, a dit Mademoiselle de Penwell. Mademoiselle des Touches y a fait bien des péchés, dont elle demande maintenant pardon à Dieu. Cela n'a-t-il pas sauvé l'âme de cette noble fille et fait la fortune d'un couvent ? S'est écrié le chevalier du Halga. L'abbé Grimond m'a dit qu'elle avait donné 100 000 francs aux dames de la Visitation. « Voulez-vous aller aux touches ?» m'a demandé ma belle-mère. « Ça vaut la peine d'être vue. »« Non, non » ai-je dit vivement. « Cette petite scène ne vous semble-t-elle pas une page de quelque drame diabolique ?» Elle est revenue sous 20 prétextes. Enfin, ma belle-mère m'a dit. « Je comprends pourquoi vous n'allez pas aux touches. Vous avez raison. » Oh, vous avouerez, maman, que ce coup de poignard involontairement donné vous aurait décidé à savoir si votre bonheur reposait sur des bases si frêles qu'il dut périr sous tel ou tel lambris. Il faut rendre justice à Calliste. Il ne m'a jamais proposé de visiter cette chartreuse devenue son bien. Nous sommes des créatures dénuées de sens, dès que nous aimons, car ce silence, cette réserve m'ont piqué, et je lui ai dit un jour, « Que crains-tu donc de voir aux touches que toi seul n'en parles pas ?»« Allons-y, dit-il. » J'ai donc été prise comme toutes les femmes qui veulent se laisser prendre et qui s'en remettent au hasard pour dénouer le nœud gordien de leur indécision. Et nous sommes allées aux touches. C'est charmant, c'est d'un goût profondément artiste, et je me plais dans cet abîme où Mademoiselle des Touches m'avait tant défendu d'aller. Toutes les fleurs vénéneuses sont charmantes, Satan les a semées, car il y a les fleurs du diable et les fleurs de Dieu. Nous n'avons qu'à rentrer en nous-mêmes pour voir qu'ils ont créé le monde de moitié. Quels âcres délices dans cette situation où je jouais non pas avec le feu, mais avec les cendres. J'étudiais Calliste. Il s'agissait de savoir si tout était bien éteint, et je veillais au courant d'air, croyez-moi. J'épiais son visage, en allant de pièce en pièce, de meuble en meuble, absolument comme les enfants qui cherchent un objet caché. Calliste m'a paru pensif, mais j'ai cru d'abord avoir vaincu. Je me suis sentie assez forte pour parler de Madame de Rochegude, que depuis l'aventure du rocher au Croisic, j'appelle Roche-perfide. Enfin, nous sommes allés voir le fameux buis où s'est arrêtée Béatrix quand il l'a jetée à la mer pour qu'elle ne fût à personne. Elle doit être bien légère pour être restée là, ai-je dit en riant. Calliste a gardé le silence. Respectons les morts, ai-je dit en continuant. Calliste est resté silencieux. T'ai-je déplu ? Non. « Mais cesse de galvaniser cette passion, a-t-il répondu. Quel mot ! Calliste, qui m'en a vu triste, a redoublé de soins et de tendresse pour moi. Août. J'étais hélas au fond de l'abîme, et je m'amusais, comme les innocentes de tous les mélodrames, à y cueillir des fleurs. Tout à coup, une pensée horrible a chevauché dans mon bonheur, comme le cheval de la ballade allemande. J'ai cru deviner que l'amour de Calliste s'agrandissait de ses réminiscences, qu'il reportait sur moi les orages que je ravivais, en lui rappelant les coquetteries de cette affreuse Béatrix. Cette nature malsaine et froide, persistante et molle, qui tient du mollusque et du corail, ose s'appeler Béatrix. Déjà, ma chère mère, me voilà forcée d'avoir l'œil à un soupçon quand mon cœur est tout à Calliste, et n'est-ce pas une grande catastrophe que l'œil l'ait emporté sur le cœur, que le soupçon enfin se trouve justifié? Voici comment. « Ce lieu m'est cher, ai-je dit à Calliste un matin, car je lui dois mon bonheur, aussi te pardonnais-je de me prendre quelquefois pour une autre. Ce loyal breton a rougi. Je lui ai sauté au cou. Mais j'ai quitté les touches et je n'y reviendrai jamais. À la force de la haine qui me fait souhaiter la mort de Madame de Rochegude, oh mon Dieu, naturellement d'une fluxion de poitrine, d'un accident quelconque, j'ai reconnu l'étendue, la puissance de mon amour pour Calyste. Cette femme est venue troubler mon sommeil. Je la vois en rêve. Dois-je donc la rencontrer? Ah, la postulante de la visitation avait raison. Les touches sont un lieu fatal. Calyste y a retrouvé ses impressions. Elles sont plus fortes que les délices de notre amour. Sachez, ma chère mère, si Madame de Rochegude est à Paris, car alors je resterai dans nos terres de Bretagne. Pauvre Mademoiselle des Touches, qui se repent maintenant de m'avoir fait habiller en Béatrix pour le jour du contrat, afin de faire réussir son plan, si elle apprenait jusqu'à quel point je viens d'être prise pour notre odieuse rivale, que dirait-elle? Mais c'est une prostitution. Je ne suis plus moi, j'ai honte. Je suis en proie à une envie furieuse de fuir Guérande et les sables du Croisic. 25 août. Décidément, je retourne aux ruines du Guénic. Calyste, assez inquiet de mon inquiétude, m'emmène. Ou il connaît peu le monde s'il ne devine rien, ou s'il sait la cause de ma fuite, il ne m'aime pas. Je tremble tant de trouver une affreuse certitude si je la cherche, que je me mets comme les enfants les mains devant les yeux pour ne pas entendre une détonation. Oh, ma mère, je ne suis pas aimée du même amour que je me sens au cœur. Calyste est charmant, c'est vrai. Mais quel homme, à moins d'être un monstre, ne serait pas comme Calyste, aimable et gracieux, en recevant toutes les fleurs écloses dans l'âme d'une jeune fille de 20 ans, élevée par vous, pure comme je le suis, aimante, et que bien des femmes vous ont dit être belle. Au Guénic, 18 septembre. L'a-t-il oublié? Voilà l'unique pensée qui retentit comme un remords dans mon âme. Ah, chère maman, toutes les femmes ont-elles eu comme moi des souvenirs à combattre? On ne devrait marier que des jeunes gens innocents à des jeunes filles pures. Mais c'est une décevante utopie. Il vaut mieux avoir sa rivale dans le passé que dans l'avenir. Ah, plaignez-moi, ma mère, quoiqu'en ce moment je sois heureuse, heureuse comme une femme qui a peur de perdre son bonheur et qui s'y accroche. Une manière de le tuer quelquefois, dit Clotilde. Je m'aperçois que depuis 5 mois je ne pense qu'à moi, c'est-à-dire à Calyste. Dites à ma sœur Clotilde que ses tristes sagesses me reviennent parfois. Elle est bien heureuse d'être fidèle à un mort, elle ne craint plus de rival. J'embrasse ma chère Athénaïs, je vois que Juste en est fou, d'après ce que vous m'en dites dans votre dernière lettre, il a peur qu'on ne la lui donne pas. Cultivez cette crainte comme une fleur précieuse, Athénaïs sera la maîtresse, et moi qui tremblais de ne pas obtenir Calyste de lui-même, je serai servante. 1000 tendresses, chère maman. Ah, si mes terreurs n'étaient pas vaines, Camille Maupin m'aurait vendu sa fortune bien chère. Mes affectueux respects à mon père. Ces lettres expliquent parfaitement la situation secrète de la femme et du mari. Si pour Sabine, son mariage était un mariage d'amour, Calyste y voyait un mariage de convenance, et les joies de la lune de miel n'avaient pas obéi tout à fait au système légal de la communauté. Pendant le séjour des deux mariés en Bretagne, les travaux de restauration, les dispositions et l'ameublement de l'hôtel du Guénic avaient été conduits par le célèbre architecte Grindot, sous la surveillance de Clotilde, de la duchesse et du duc de Grandlieu. Toutes les mesures avaient été prises pour qu'au mois de décembre 1838, le jeune ménage pût revenir à Paris. Sabine s'installa donc rue de Bourbon avec plaisir, moins pour jouer à la maîtresse de maison que pour savoir ce que sa famille penserait de son mariage. Calyste, en bel indifférent, se laissa guider volontiers dans le monde par sa belle-sœur Clotilde et par sa belle-mère, qui lui surent gré de cette obéissance. Il y obtint la place due à son nom, à sa fortune et à son alliance. Le succès de sa femme comptait comme une des plus charmantes. Les distractions que donne la haute société, les devoirs à remplir, les amusements de l'hiver à Paris, rendirent un peu de force au bonheur du ménage en y produisant à la fois des excitants et des intermèdes. Sabine, trouvée heureuse par sa mère et sa sœur qui virent dans la froideur de Calyste un effet de son éducation anglaise, abandonna ses idées noires. Elle entendit envier son sort par tant de jeunes femmes mal mariées qu'elle renvoya ses terreurs au pays des chimères. Enfin, la grossesse de Sabine compléta les garanties offertes par cette union du genre neutre, une de celles dont augurent bien les femmes expérimentées. En octobre 1839, la jeune baronne du Guénic eut un fils et fit la folie de le nourrir, selon le calcul de toutes les femmes en pareil cas. Comment ne pas être entièrement mère quand on a eu son enfant d'un mari vraiment idolâtré? Vers la fin de l'été suivant, en août 1840, Sabine était donc encore nourrice. Pendant un séjour de 2 ans à Paris, Calliste s'était tout à fait dépouillé de cette innocence dont les prestiges avaient décoré ses débuts dans le monde de la passion. Calliste s'était lié naturellement avec le jeune duc Georges de Maufrigneuse, marié comme lui nouvellement à une héritière, Berthe de Cinq-Cygnes, avec le vicomte Savinien de Portenduère, avec le duc et la duchesse de Rhétoré, le duc et la duchesse de Lenoncourt-Chaulieu, avec tous les habitués du salon de sa belle-mère. La richesse a des heures funestes, des oisivetés que Paris sait plus qu'aucune autre capitale, amusée, charmée, intéressée. Au contact de ces jeunes maris qui laissaient les plus nobles, les plus belles créatures pour les délices du cigare et du whist, pour les sublimes conversations du club ou pour les préoccupations du turf, bien des vertus domestiques furent atteintes chez le jeune gentilhomme breton. Le maternel désir d'une femme qui ne veut pas ennuyer son mari vient toujours en aide aux dissipations des jeunes mariés. Une femme est si fière de voir revenir à elle un homme à qui elle laisse toute sa liberté. Un soir, en octobre de cette année, pour fuir les cris d'un enfant en sevrage, Calliste, à qui Sabine ne pouvait pas voir sans douleur un pli au front, alla conseiller par elle aux variétés où l'on donnait une pièce nouvelle. Le valet de chambre, chargé de louer une stalle à l'orchestre, l'avait prise assez près de cette partie de la salle appelée l'avant-scène. Au premier entr'acte, en regardant autour de lui, Calliste aperçut dans une des deux loges d'avant-scène au rez-de-chaussée, à 4 pas de lui, Madame de Rochegude. Béatrix à Paris, Béatrix en public. Ces deux idées traversèrent le cœur de Calliste comme deux flèches. La revoir après 3 ans bientôt. Comment expliquer le bouleversement qui se fit dans l'âme d'un amant qui, loin d'oublier, avait quelquefois si bien épousé Béatrix dans sa femme que sa femme s'en était aperçue. À qui peut-on expliquer que le poème d'un amour perdu, méconnu, mais toujours vivant dans le cœur du mari de Sabine, y rendit obscures les suavités conjugales, la tendresse ineffable de la jeune épouse. Béatrix devint la lumière, le jour, le mouvement, la vie et l'inconnu, tandis que Sabine fut le devoir, les ténèbres, le prévu. L'une fut en un moment le plaisir et l'autre l'ennui. Ce fut un coup de foudre. Dans sa loyauté, le mari de Sabine eut la noble pensée de quitter la salle. À la sortie de l'orchestre, il vit la porte de la loge entr'ouverte et ses pieds l'y menèrent en dépit de sa volonté. Le jeune Breton y trouva Béatrix entre 2 hommes des plus distingués, Canalis et Nathan, un homme politique et un homme littéraire. Depuis bientôt 3 ans que Calliste ne l'avait vue, Madame de Rochegude avait étonnamment changé. Mais, quoique sa métamorphose eût atteint la femme, elle devait n'en être que plus poétique et plus attrayante pour Calliste. Jusqu'à l'âge de 30 ans, les jolies femmes de Paris ne demandent qu'un vêtement à la toilette, mais en passant sous le porche fatal de la trentaine, elles cherchent des armes, des séductions, des embellissements dans les chiffons. Elles se composent des grâces, elles y trouvent des moyens, elles y prennent un caractère, elles s'y rajeunissent, elles étudient les plus légers accessoires, elles passent enfin de la nature à l'art. Madame de Rochegude venait de subir les péripéties du drame qui, dans cette histoire des mœurs françaises au XIXe siècle, s'appelle « La femme abandonnée ». Elle avait été quittée la première par Conti. Naturellement, elle était devenue une grande artiste en toilette, en coquetterie et en fleurs artificielles. Comment Conti n'est-il pas ici ? Demanda tout bas Calliste à Canalis après avoir fait les salutations banales par lesquelles commencent les entrevues les plus solennelles quand elles ont lieu publiquement. L'ancien grand poète du faubourg Saint-Germain, 2 fois ministre, et redevenu pour la 4e fois un orateur aspirant à quelque nouveau ministère, se mit significativement un doigt sur les lèvres. Ce geste expliqua tout. « Je suis bien heureuse de vous voir, » dit chattement Béatrix à Calliste. « Je me disais en vous reconnaissant là, sans être aperçue tout d'abord, que vous ne me renieriez pas à vous. « Ah, mon Calliste, pourquoi vous êtes-vous marié ?» lui dit-elle à l'oreille, « et avec une petite sotte encore. » Dès qu'une femme parle à l'oreille d'un nouveau venu dans sa loge en le faisant asseoir à côté d'elle, les gens du monde ont toujours un prétexte pour la laisser seule avec lui. « Venez-vous, Nathan ?» dit Canalis. « Madame la marquise me permettra d'aller dire un mot à d'Arthez, que je vois avec la princesse de Cadignan. » Il s'agit d'une combinaison de tribunes pour la séance de demain. Cette sortie de bon goût permit à Calliste de se remettre du choc qu'il venait de subir. Mais il acheva de perdre son esprit et sa force en aspirant la senteur, pour lui charmante et vénéneuse, de la poésie composée par Béatrix. Madame de Rochegude, devenue osseuse et filandreuse, dont le teint s'était presque décomposé, maigrie, flétrie, les yeux cernés, avait ce soir-là fleuri ses ruines prématurées par les conceptions les plus ingénieuses de l'article Paris. Elle avait imaginé, comme toutes les femmes abandonnées, de se donner l'air vierge, en rappelant par beaucoup d'étoffes blanches les filles d'Ossian, si poétiquement peintes par Giraudet. Sa chevelure blonde enveloppait sa figure allongée par des flots de boucles où ruisselaient les clartés de la rampe attirées par le luisant d'une huile parfumée. Son front pâle étincelait. Elle avait mis imperceptiblement du rouge dont l'éclat trompait l'œil sur la blancheur fade de son teint refait à l'eau de son. Une écharpe d'une finesse à faire douter que des hommes eussent ainsi travaillé la soie était tortillée à son cou de manière à en diminuer la longueur, à le cacher, à ne laisser voir qu'imparfaitement des trésors habilement sertis par le corset. Sa taille était un chef-d'œuvre de composition. Quant à sa pose, un mot suffit. Elle valait toute la peine qu'elle avait prise à la chercher. Ses bras maigris, durcis, paraissaient à peine sous les bouffants à effet calculés de ses manches larges. Elle offrait ce mélange de lueurs et de soieries brillantes, de gaz et de cheveux crêpés, de vivacité, de calme et de mouvement, qu'on a nommé le « je ne sais quoi ». Tout le monde sait en quoi consiste le « je ne sais quoi ». C'est beaucoup d'esprit, de goût et d'envie de plaire. Béatrix était donc une pièce à décor, à changement et prodigieusement machinée. La représentation de ces féeries, qui sont aussi très habilement dialoguées, rend fous les hommes doués de franchise, car ils éprouvent, par la loi des contrastes, un désir effréné de jouer avec les artifices. C'est faux et entraînant, c'est cherché mais agréable, et certains hommes adorent ces femmes qui jouent à la séduction comme on joue aux cartes. Voici pourquoi. Le désir de l'homme est un syllogiste qui conclut de cette science extérieure au secret théorème de la volupté. L'esprit se dit sans parole. Une femme qui sait se créer si belle doit avoir de bien autres ressources dans la passion. Et c'est vrai, les femmes abandonnées sont celles qui aiment, les conservatrices sont celles qui savent aimer. Or, si cette leçon d'italien avait été cruelle pour l'amour-propre de Béatrix, elle appartenait à une nature trop naturellement artificieuse pour ne pas en profiter. Il ne s'agit pas de vous aimer, disait-elle quelques instants avant que Calliste n'entrât. Il faut vous tracasser quand nous vous tenons. Là est le secret de celles qui veulent vous conserver. Les dragons gardiens des trésors sont armés de griffes et d'ailes. On ferait un sonnet de votre pensée, avait répondu Canalis au moment où Calliste entra. En un seul regard, Béatrix devina l'état de Calliste. Elle retrouva fraîches et rouges les marques du collier qu'elle lui avait mis aux touches. Calliste, blessé du mot dit sur sa femme, hésitait entre sa dignité de mari, la défense de Sabine, et une parole dure à jeter dans un cœur d'où s'exhalaient pour lui tant de souvenirs, un cœur qu'il croyait saignant encore. Cette hésitation, la marquise l'observait. Elle n'avait dit ce mot que pour savoir jusqu'où s'étendait son empire sur Calliste. En le voyant si faible, elle vint à son secours pour le tirer d'embarras. « Eh bien, mon ami, vous me trouvez seule, » dit-elle quand les deux courtisans furent partis. « Oui, seule au monde. »« Vous n'avez donc pas pensé à moi, » dit Calliste. « Vous, » répondit-elle. N'êtes-vous pas mariée ? Ce fut une de mes douleurs au milieu de celles que j'ai subies depuis que nous ne nous sommes vus. Non seulement, me suis-je dit, je perds l'amour, mais encore une amitié que je croyais être bretonne. On s'accoutume à tout. Maintenant je souffre moins, mais je suis brisée. Voici depuis longtemps le premier épanchement de mon cœur. Obligée d'être fière devant les indifférents, arrogante comme si je n'avais pas failli devant les gens qui me font la cour, ayant perdu ma chère félicité, je n'avais pas une oreille où jeter ce mot. Je souffre. Aussi maintenant puis-je vous dire quelle a été mon angoisse en vous voyant à quatre pas de moi sans être reconnue par vous, et quelle est ma joie en vous voyant près de moi. « Oui, dit-elle, en répondant à un geste de Calliste, c'est presque de la fidélité. Voilà les malheureux. Un rien, une visite est tout pour eux. Ah, vous m'avez aimé, vous, comme je méritais de l'être par celui qui s'est plu à fouler aux pieds tous les trésors que j'y versais. Et pour mon malheur, je ne sais pas oublier, j'aime, et je veux être fidèle à ce passé qui ne reviendra jamais. » En disant cette tirade, improvisée déjà 100 fois, elle jouait de la prunelle de manière à doubler par le geste l'effet des paroles qui semblaient arrachées du fond de son âme par la violence d'un torrent longtemps contenu. Calliste, au lieu de parler, laissa couler les larmes qui lui roulaient dans les yeux. Béatrix lui prit la main, la lui serra, le fit pâlir. « Merci, Calliste. Merci, mon pauvre enfant. Voilà comment un véritable ami répond à la douleur d'un ami. Nous nous entendons. Tenez, N'ajoutez pas un mot. Allez-vous-en, l'on nous regarde, et vous pourriez faire du chagrin à votre femme si par hasard on lui disait que nous nous sommes vus, quoique bien innocemment, à la face de 1000 personnes. Adieu. Je suis forte, voyez-vous ? » Elle s'essuya les yeux en faisant ce que, dans la rhétorique des femmes, on doit appeler une antithèse en action. « Laissez-moi rire du rire des damnés, avec les indifférents qui m'amusent, » reprit-elle. « Je vois des artistes, des écrivains, le monde que j'ai connu chez notre pauvre Camille Maupin, qui, certes, a peut-être eu raison. Enrichir celui qu'on aime, et disparaître en se disant « je suis trop vieille pour lui », c'est finir en martyr. Et c'est ce qu'il y a de mieux quand on ne peut pas finir en vierge. » Et elle se mit à rire, comme pour détruire l'impression triste qu'elle avait dû donner à son ancien adorateur. « Mais, dit Calliste, où puis-je vous aller voir ? Je me suis cachée rue de Chartres, devant le parc Monceau, dans un petit hôtel conforme à ma fortune, et je m'y bourre la tête de littérature, mais pour moi seule, pour me distraire. Dieu me garde de la manie de ces dames. Allez, sortez, laissez-moi, je ne veux pas occuper de moi le monde, et que ne dirait-on pas en nous voyant ? D'ailleurs, tenez, Calliste, si vous restiez encore un instant, je pleurerais tout à fait. » Calliste se retira, mais après avoir tendu la main à Béatrix et avoir éprouvé pour la seconde fois la sensation profonde, étrange, d'une double pression pleine de chatouillements séducteurs. « Mon Dieu, Sabine n'a jamais su me remuer le cœur ainsi !» fut une pensée qui l'assaillit dans le corridor. Pendant le reste de la soirée, la marquise de Rochegude ne jeta pas 3 regards directs à Calliste. Mais il y eut des regards de côté, qui furent autant de déchirements d'âme pour un homme tout entier à son premier amour repoussé. Quand le baron du Guénic se trouva chez lui, la splendeur de ses appartements le fit songer à l'espèce de médiocrité dont avait parlé Béatrix. Et il prit sa fortune en haine de ce qu'elle ne pouvait appartenir à l'ange déchu. Quand il apprit que Sabine était depuis longtemps couchée, il fut fort heureux de se trouver riche d'une nuit pour vivre avec ses émotions. Il maudit alors la divination que l'amour donnait à Sabine. Lorsqu'un mari par aventure est adoré de sa femme, elle lit sur ce visage comme dans un livre, elle connaît les moindres tressaillements des muscles, elle sait d'où vient le calme, elle se demande compte de la plus légère tristesse et recherche si c'est elle qui la cause. Elle étudie les yeux, pour elle, les yeux se teignent de la pensée dominante, ils aiment ou ils n'aiment pas. Calliste se savait l'objet d'un culte si profond, si naïf, si jaloux, qu'il douta de pouvoir se composer une figure discrète sur le changement survenu dans son moral. « Comment ferai-je demain matin ?» se dit-il en s'endormant, et redoutant l'espèce d'inspection à laquelle se livrait Sabine. En abordant Calliste, et même parfois dans la journée, Sabine lui demandait « M'aimes-tu toujours ? Ou bien, je ne t'ennuie pas ?» Interrogations gracieuses, variées selon le caractère ou l'esprit des femmes, et qui cachent leurs angoisses, ou feintes, ou réelles. Il vient à la surface des cœurs les plus nobles et les plus purs, des boues, soulevées par les ouragans. Ainsi, le lendemain matin, Calliste, qui certes aimait son enfant, tressaillit de joie en apprenant que Sabine guettait la cause de quelques convulsions, en craignant le croup, et qu'elle ne voulait pas quitter le petit Calliste. Le baron prétexta d'une affaire et sortit en évitant de déjeuner à la maison. Il s'échappa, comme s'échappent les prisonniers, heureux d'aller à pied, de marcher par le pont Louis XVI et les Champs-Élysées, vers un café du boulevard où il se plut à déjeuner en garçon. Qu'y a-t-il donc dans l'amour ? La nature regimbe-t-elle sous le joug social ? La nature veut-elle que l'élan de la vie donnée soit spontané, libre, que ce soit le cours d'un torrent fougueux, brisé par les rochers de la contradiction, de la coquetterie, au lieu d'être une eau coulant tranquillement entre les 2 rives de la mairie, de l'église ? A-t-elle ses desseins quand elle couve ces éruptions volcaniques auxquelles sont dus les grands hommes, peut-être ? Il eût été difficile de trouver un jeune homme élevé plus saintement que Calliste, de mœurs plus pures, moins souillé d'irréligion. Et il bondissait vers une femme indigne de lui quand un clément, un radieux hasard lui avait présenté dans la baronne du Guénic une jeune fille d'une beauté vraiment aristocratique, d'un esprit fin et délicat, pieuse, aimante et attachée uniquement à lui, d'une douceur angélique encore attendrie par l'amour, par un amour passionné malgré le mariage, comme l'était le sien pour Béatrix. Peut-être les hommes les plus grands ont-ils gardé dans leur constitution un peu d'argile, la fange leur plaît encore. L'être le moins imparfait serait donc alors la femme, malgré ses fautes et ses déraisons. Néanmoins, Madame de Rochegude, au milieu du cortège de prétentions poétiques qui l'entourait, et malgré sa chute, appartenait à la plus haute noblesse. Elle offrait une nature plus éthérée que fangeuse et cachait la courtisane qu'elle se proposait d'être sous les dehors les plus aristocratiques. Ainsi, cette explication ne rendrait pas compte de l'étrange passion de Calliste. Peut-être en trouverait-on la raison dans une vanité si profondément enterrée que les moralistes n'ont pas encore découvert ce côté du vice. Il est des hommes pleins de noblesse comme Calliste, beaux comme Calliste, riches et distingués, bien élevés, qui se fatiguent, à leur insu peut-être, d'un mariage avec une nature semblable à la leur. Des êtres dont la noblesse ne s'étonne pas de la noblesse, que la grandeur et la délicatesse toujours consonnant à la leur laissent dans le calme et qui vont chercher auprès des natures inférieures ou tombées la sanction de leur supériorité, si toutefois ils ne vont pas leur mendier des éloges. Le contraste de la décadence morale et du sublime divertit leur regard, le pur brille tant dans le voisinage de l'impur. Cette contradiction amuse. Calliste n'avait rien à protéger dans Sabine, elle était irréprochable, les forces perdues de son cœur allaient toutes vibrer chez Béatrix. Si des grands hommes ont joué sous nos yeux ce rôle de Jésus relevant la femme adultère, pourquoi les gens ordinaires seraient-ils plus sages? Calliste atteignit à l'heure de 2 heures en vivant sur cette phrase « Je vais la revoir », un poème qui souvent a défrayé des voyages de 700 lieues. Il alla d'un pas leste jusqu'à la rue de Courcelles, il reconnut la maison, quoiqu'il ne l'eût jamais vue, et il resta, lui, le gendre du duc de Grandlieu, lui riche, lui noble comme les Bourbons, au bas de l'escalier, arrêté par la question d'un vieux valet. « Le nom de monsieur ?» Calliste comprit qu'il devait laisser à Béatrix son libre arbitre, et il examina le jardin, les murs ondés par les lignes noires et jaunes que produisent les pluies sur les plâtres de Paris.